Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est posant des questions.
Avec tout ça, il y a une question.
Avertissement, l'émission qui va suivre nécessite l'usage d'un cerveau. Si vous n'avez pas de cerveau, n'hésitez pas à nous contacter.
Alors, bienvenue à l'émission 283 des Entonnoirs. Alors, cette émission, c'est une émission un peu spéciale parce que c'est une émission basée sur l'éthique. Le thème qu'on va développer aujourd'hui, en fait, c'est l'expertise psychiatrique au pénal. Marie-Agnès, est-ce que tu peux nous situer?
Juste pour préciser avant que tu commences ton intro, Marie, cette émission se déroulera donc sur 2 semaines. Donc si vous voulez la suite, il faudra revenir la semaine prochaine, si vous avez survécu à la première partie. Marie-Agnès, l'intro.
Je trouve ça flash, j'étais même pas au courant.
Ah si. Ah bon.
Oui.
Maintenant, bon, enfin, t'as pas eu la note de service?
Non, j'ai pas eu la note de service, mais bon, je veux bien recommencer. De l'introduction, c'est bien gentil. Vous vouliez savoir pourquoi il y avait expertise et quand, je crois.
Voilà.
Attends, je vais t'aider, si oui. Tu veux. Je viens te sauver. Oui. Tu m'as tendu une main à un moment, je t'entends une maintenant.
D'accord.
Parce que, est-ce que tu peux déjà peut-être expliquer où on est allé le 22 novembre?
J'en ai aucune idée, je travaillais pas.
D'accord, donc je vais le faire si tu veux, comme tu n'étais pas prévenu. Le 22 novembre, nous sommes allés avec l'équipe des Entonnoirs à Valenciennes pour, dans le cadre de la 9e soirée de l'espace éthique de la Fédération régionale de recherche en santé mentale.
Voilà, alors cette soirée se déroulait autour de plusieurs événements, en fait, c'était un espèce de petit colloque où il y avait 4 invités principaux. Un psychiatre expert, un avocat célèbre, un autre psychiatre.
Et un avocat général.
Et un avocat général de cour d'assises.
Et donc, du coup, le thème de cette soirée, c'était l'expertise en psychiatrie, donc l'expertise au pénal en psychiatrie. Ouais, ou alors l'expertise psychiatrique au pénal. Ça va dans tous les sens. Et donc, du coup, on a pu interviewer, donc, Michael Dufour et Franck Berton. Et voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de vous passer quelques extraits, ben même tous les extraits de ces interviews, et ici, nous, d'en débattre là, pendant 2 heures sur l'éthique de l'expertise psychiatrique au pénal. Donc, est-ce que les amis entonnoirs là, qui sont autour de la table, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter sur le contexte un peu de ces 2 heures d'émission là, qu'on va passer ensemble? Pas tous en même temps, surtout, sinon ça va pas s'entendre à la radio.
Bah, c'est clair. Donc, en fait, moi, si j'ai bien compris, c'est que vous vouliez que je vous amène le pourquoi du comment.
Oui, mais voilà, d'habitude, on peut pas compter sur toi.
Mais si, je peux toujours. Les expertises, c'est des choses, les expertises psychiatriques sont des choses dont les médias entendent de plus en plus. C'est-à-dire que, dès qu'il y a une affaire quelconque, on parle d'expertise, mais il faut savoir que pour tout ce qui est violence, atteinte aux mœurs, tout ce qui, en général sur qui relève du pénal, effectivement, il y a une systématisation. Vous me l'avez bien dit. De l'expertise pour savoir si la personne était
atteinte d'altération ou d'abolition du discernement.
Voilà, exactement. Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux pour savoir s'il peut être jugé ou soigné.
Voilà. Donc dans un des cas, s'il y a abolition ou altération, il y a pas de jugement, et si c'est quelqu'un qui est pas dans ces cas-là.
Il y a quand même un juge, il y a
et
pas.
Ben justement, je te propose, on aborde ça dans les extraits qu'on va écouter. Je te propose d'écouter tout de suite un premier extrait, si
c'est
tu le veux
fait bien.
Et on se retrouve juste après pour en discuter. Ça dure 7 minutes 30. Allumez vos cerveaux, allumez votre conscience. Et on écoute ça tout de suite. Donc c'est Michael Dufour, expert au pénal.
«
Bien, bonjour. Pour donc cette soirée qui est autour de l'éthique, mais plus essentiellement autour de l'expertise psychiatrique au pénal. Je lisais un peu vos références. Vous êtes psychiatre praticien, donc ici à Valenciennes, et vous avez exercé et vous exercez en tant qu'expert à la cour d'appel de Douai. Vous avez exercé avec le docteur Balthazar, qu'on a bien connu ici à Roubaix. Et vous avez apparemment, visiblement, un DU en psychiatrie légale que vous avez obtenu au Kremlin-Bicêtre. Que vient faire l'éthique dans la pratique expertale dont vous allez parler ce soir? Pourquoi l'éthique dans cette histoire?
Vous allez donc... Alors, merci déjà pour l'invitation. Alors, avant de répondre à votre question, c'est vrai que vous avez situé mon cursus et vous avez eu le plaisir de me rappeler que j'étais un des élèves de Christian Balthazar. Et je profite de cette parole pour lui porter hommage, hein, sachant qu'on s'est toujours inscrit à Valenciennes dans une forme d'école, le compagnonnage. Il y a une transmission qui s'est passée, qui est partie de lui pour arriver à moi, et j'espère qu'elle arrivera vers d'autres internes. Alors, pour répondre précisément à votre question, l'éthique, évidemment, elle est centrale dans une pratique expertale. Je veux dire, quid d'une pratique expertale sans éthique? Alors, l'éthique, ça peut être un mot creux comme ça peut être un mot plein de sens. Moi, ce que je situerais, c'est que mon éthique, je la situerais avant tout dans une pratique clinique basée sur une analyse la plus précise possible de la clinique des sujets rencontrés. Donc, toujours une référence à la clinique, indépendamment de tout jugement moraux, puisqu'en fait... Quand on fait des expertises, on peut vite déraper dans une position qui n'est pas une position de technicien du champ psychiatrique. Donc, respect de la clinique avant tout. Respect évidemment des lois en vigueur, parce que on pratique par définition dans un contexte particulier. Donc, respect des lois en vigueur. Et tout ça pour but de bien déterminer face à chaque acte transgressif si les sujets rencontrés ou non des troubles mentaux, et donc si oui ou non ils peuvent être soumis à un processus judiciaire traditionnel.
Bonjour monsieur. Donc vous intervenez ce soir dans le cadre d'une intervention qui s'appelle « Pourquoi si peu de psychiatres experts ?» C'est bien ça ?
C'est ça.
Donc je vous pose la question.
Alors... Je ne vais pas non plus divulguer en 5 minutes le contenu total de mon intervention. Hein. Ça serait un petit peu... Bon, il faudrait rester jusqu'à la fin.
C'est pas bien payé, c'est ça?
Alors, je vais aborder ce paramètre. Et c'est évidemment... C'est un peu une question taboue. Alors, c'est assez rigolo parce que vous osez la poser tout de suite et je trouve ça plutôt pas mal. Au moins, on va dépasser un petit peu les non-dits et les barrages. Hein. On peut aller au fond des choses. C'est une des raisons, évidemment... Hein, j'aborderai dans mon exposé des raisons évidemment matérielles, pourquoi aussi peu d'experts psychiatrico-pénales, mais évidemment je ne vais pas aborder que ces questionnements-là, parce que bon, j'entends bien que si je ne m'occupais que du matériel, a priori, ça ne serait pas forcément très intéressant. Donc je vais aussi essayer d'aborder un petit peu le fait que si on a peu, c'est aussi parce qu'on nous en demande de plus en plus, et que quand on nous en demande de plus en plus, on est moins disponible pour faire autre chose. Et que dans la vie, c'est comme tout, quand on fait beaucoup de quelque chose, on finit par en être gavé, et donc finalement, on finit par ne pas s'engager. Ça, c'était une des raisons. Il y a d'autres raisons qui tournent plus autour des questionnements, autour de la pratique expertale, puisqu'en fait, sans faire l'historique de tout ça, en 5 minutes, on nous demande de plus en plus de nous positionner sur des questionnements qui sortent très largement de notre domaine de compétences. Ensuite, je pourrais aussi aborder le fait qu'en pratique, ça peut être un exercice périlleux. Quand on se retrouve aux assises, on a beau savoir que c'est quelque chose de très théâtralisé, c'est une forme de rite. Malgré tout, ça reste une pratique qui peut être assez déstabilisante. Donc, ce ne sont que des raisons, mais il y en a d'autres. Alors, Mathieu,
vas-y. Bonsoir, vous avez parlé de respect et d'éthique. Quelles sont les qualités d'un bon expert, selon vous?
À chaque fois, c'est des questions assez compliquées. Alors, les qualités d'un bon expert, je dirais que c'est les qualités, j'ose dire, d'un bon médecin, quelque part. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute, qui est capable de respecter l'autre, qui est capable de faire une lecture sémiologique de l'autre sans a priori, sans présupposés, sans jugement de valeur. Quelqu'un qui est capable d'être dans un processus de rencontre avec tout ce que ça peut impliquer. Donc quelqu'un d'ouvert, avant tout, je pense, qui n'a pas d'archétype prédéterminé et qui est capable de s'adapter au sujet rencontré. Après, évidemment, il y a je l'espère, des qualités humaines, mais il y a aussi évidemment des qualités plus théoriques. Hein. Il faut quand même maîtriser la clinique de façon assez fine. Et puis, il faut malgré tout avoir quelques connaissances des processus juridiques, parce que bon, c'est quand même une pratique qui, au départ, ne fait pas partie de notre formation. Donc, il faut aussi quelques connaissances dans ce domaine-là.
Alors, bonjour. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'un expert psychiatre a le droit à l'erreur ?
Ben, bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, évidemment, ça peut être dramatique, hein, puisqu'on touche quand même parfois des situations très délicates. Hein. Il y a quand même des sanctions qui peuvent varier du simple au triple. En même temps, ben, à partir du moment où on travaille sur de l'humain, je dirais que l'erreur, elle est inhérente à notre pratique. Je dirais qu'on a le même risque d'erreur en pratique expertale qu'en pratique de clinicien. Hein, ça peut arriver, évidemment. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que quand on a affaire à des situations délicates, aussi bien dans le champ expertal que dans le champ thérapeutique, on est quand même rarement tout seul. Hein. C'est-à-dire que quand on a une expertise qui visiblement n'est pas adaptée, bah, vous inquiétez pas, hein, les instances judiciaires, ils ont vite fait de demander une contre-expertise. Donc les grosses erreurs sont finalement assez facilement corrigées. Hein.
Est-ce qu'un expert ne risque pas le pénal non plus ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, il y a une responsabilité. Hein, quand tu, à partir du moment où dans ta pratique tu engages ton nom, ta signature, eh ben tu es soumis à des principes de responsabilité, à la fois pénale, civile. Bon, uniquement pénale et civile. Là, pas du tout administratif, parce qu'en fait c'est une pratique privée. Hein, on est détaché de l'hôpital quand on fait ce type de mission.
Donc voilà, on espère qu'on n'a pas perdu trop de monde et on va en débattre un peu de cet extrait. Donc on l'a tous écouté. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est tous chauds.
Oui.
Donc voilà, donc l'expertise en général. Donc Marianne, si tu veux, je te redonne la parole que je t'avais pris avant l'extrait.
Oui, ben je disais que au moindre doute, il y aura une demande d'expertise. Et effectivement, il y a abolition ou altération. Quand il y a altération, effectivement, il y a une possibilité de jugement, puisque de toute façon, la personne, elle est que temporairement privée. Alors après, bon. Ça relève de... Est-ce que c'était à ce moment-là... Enfin bon, c'est plus compliqué et c'est pas trop de ma ressource.
On aura l'occasion d'y revenir dans les différents extraits.
Mais il faut savoir que de toute façon, elle est systématique dans ces cas-là. Et elle peut être aussi demandée par le défendeur. Parce que ben il juge que c'était pas dans un état normal que la personne a fait les actes, bon ben voilà, et puis ça a des conséquences qui font que bon, plus ça va, plus on s'aperçoit que ben il y a beaucoup de choses qui relèvent de la psychiatrie et du soin, et en conséquence aussi c'est que ben quand ces gens-là sortent, et ben on les retrouve en psychiatrie.
Alors moi, je voulais apporter des précisions par rapport à l'altération. En fait, c'était soit comment il s'appelait ?
Berton.
Maître Berton.
Franck, de son prénom.
Ou l'expert psychiatre Monsieur Dufour, qui disait qu'en fait, il peut avoir altération quand la personne a conscience de ses actes. Il a conscience de ses actes. Et...
Alors, on viendra peut-être par la suite sur la notion d'abolition et d'altération. Peut-être, excuse-moi, comme on y revient par la suite, je te redonnerai la parole tout à l'heure. Peut-être me tourner vers Gilbert, qui, donc du coup, tu as entendu, tu n'étais pas là avec nous le 22, mais tu as entendu le discours sur l'expertise en psychiatrie.
Alors,
qu'est-ce que tu en penses ?
Si l'avocat il juge que l'expert psychiatrique est négatif, à ce moment-là, il demande tout simplement un contre-expertise psychiatrique.
Et qu'est-ce que c'est pour toi l'expertise ? Qu'est-ce que tu comprends de cette notion ?
Si l'expertise, l'avocat, il dit oh, il est pas bon, si là, il condamne mon client, il dit qu'il est responsable. À ce moment-là, l'avocat, il demande un contre-expertise. Il demande un contre-expertise et ça va comme ça.
Brahim, peut-être vas-tu en.
Moi, j'ai l'été, c'est pour les manteaux, parce qu'on n'est pas fous, parce qu'on est des anormaux. Mais. À propos de machin, même il est venu ce matin. À Sophie, elle est venue.
Sophie de la Fédération de Recherche.
Elle recherche pour les. Quand on est fou, quand on est attaché, par exemple. Si t'es attaché, il met la salle. La maison où t'es enfermé dedans à l'intérieur. ça, le location de dans l'intérieur, et ben tu peux plus sortir après.
Voilà. Donc tu veux dire que l'expert, en fait, c'est lui qui décide si la personne doit être jugée ou doit être enfermée, c'est ça?
C'est ça, ouais. Parce que moi, j'étais enfermé, j'étais à l'hôpital parce que j'étais énervé par ma famille. J'avais des problèmes de chez moi. Après, j'ai appelé la police. Après, mon mari a disputé avec les gendarmes, tout ça.
On est beaucoup à être passé par le Brahim.
Après, j'ai passé à bonne affaire. Après, maintenant, ils m'ont
bon, tu vas pas sortir tout ton carnet de santé, Brahim.
Il m'a sorti un tertian de 25 mg.
Merci, Brahim.
Merci. Des canoës, trois ampoules.
Et un thé vert avant d'aller dormir. Bruno, après Florent.
Moi, j'aurais un peu une subtilité de langage avec la langue française, dans le sens, ce qui me fait penser à l'éthique, c'est, j'ai une formule en tant que, je l'ai toujours pratiqué en tant que poète, lorsque je brûlais les étiquettes. C'est, ah oui, je suis celui qui brûle les étiquettes.
Étiquette.
Alors, moi, il me semble que l'expertise psychiatrique, en fait, c'est quand les jurés ne savent, enfin, on des doutes sur... C'est ça, hein, c'est ce
que je peux te poser savoir. J'ai une question. Est-ce que tu, après ces interviews qu'on a réalisées, est-ce que c'était plus clair pour toi dans ton esprit ce que c'est la psychiatrie l'expertise en psychiatrie au pénal? Est-ce que c'était plus clair pour toi au regard de l'éthique et tout?
Non, c'était plus clair. D'abord, il a posé le problème. Enfin, au niveau de l'expertise de psychiatrie, il s'agit de savoir si un prévenu fait une abolition ou fait un... Comment on appelle ça?
Altération.
Une altération, voilà. Donc, il a marqué le coup parce qu'il a fait la différence entre abolition et altération. Alors, est-ce que le prévenu sera jugé, sera responsable de ses actes? Ou alors, est-ce que le prévenu va aller tout simplement dans une UMD, dans une unité médicale pour personnes dangereuses? Non, il a bien expliqué les faits. Hein.
Fred, après Florent, et après j'ai une question.
Ouais, moi je voudrais revenir sur ce que Michael Dufour dit dans l'interview. Lui parle donne sa définition de l'éthique. Donc pas l'éthique au sens large, l'éthique dans le cadre de l'expertise psychiatrique. Il a dit, c'est le respect de la clinique avant tout, c'est-à-dire le sujet dans son histoire, dans son contexte, indépendamment de tout jugement de valeur. C'est-à-dire que l'expert évidemment doit mettre de côté ce qu'il ressent à titre personnel dans ce que l'autre a fait, etc., etc. Il doit surtout être un clinicien. Voilà.
C'est vrai que ça doit pas être simple de devoir expertiser quelqu'un.
Johan, j'avais une question juste pour mettre de l'eau au moulin. Qu'est-ce qu'il veut dire par... lui, il respecte l'esprit clinique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'individu à l'intérieur de la clinique, analysé à travers...
Il essaie d'être un bon médecin au regard des valeurs qui doivent animer un clinicien. C'est comme ça que je le comprends.
La clinique, pour lui, en fait, ça veut dire tout ce qui est symptôme. Tout ce qui est symptomatique, en fait. Donc, c'est l'analyse de tout ce qui est symptomatique, en fait, dans le comportement, dans le comportement du patient en règle générale.
Oui, je reprends l'intervention de Fred par rapport aux cliniques, par rapport à l'expert, il doit être clinique. Dans le sens, c'est qui dit clinique, je crois que il doit voir les mécanismes de pensée pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui altère la personne qui voit en face de lui, s'il n'y a pas des troubles dans la mécanique, dans la façon de penser, dans les mécanismes de pensée. Je crois que c'est ça. Mais imaginons quelqu'un qui pose problème, justement, qui a des mécanismes de pensée que... On sait pas où ils vont, mais finalement, il est très bien, quoi. Il est cool, il fait de mal à personne, quoi. Je pose le problème, quoi.
Le problème, il est résolu d'avance. Malgré que ce soit un médecin, même un expert, ça restera un être humain. Même s'il a une capacité et un savoir qui lui permet de se positionner en devant d'autres personnes, mais il peut quand même toujours se tromper.
Oui, exactement.
Après, ça doit quand même être difficile de juger sans a priori. Pardon. Quelqu'un qui a, par exemple, on va citer un fait divers dans le réel, qui a égorgé deux infirmières, deux patientes, deux soignantes. Ça doit être quand même compliqué pour l'expert de juger sans avoir d'a priori par rapport à l'acte et l'horreur de l'acte. Et est-ce que ça doit être aussi difficile d'avoir la responsabilité de décider quelqu'un qui a fait un fait divers, un crime, décider qu'il aille en hôpital psychiatrique plutôt que face à la justice? Ça doit être compliqué, la relation que l'expert il a avec les familles des victimes.
Oui, certainement. Mais je pense, et ça mes collègues pourront pas me l'enlever, moi je suis pas non plus expert, hein. Je suis une simple infirmière, je veux dire. Mais on a une obligation dans notre travail à avoir du recul et avoir comme objectif justement d'être le plus... Le plus neutre possible. Bon, c'est pas toujours réalisable, mais un médecin, quand on va prendre un médecin expert, on va pas le prendre non plus sur le lieu même de l'incident. On va faire exprès de le décentraliser pour qu'il y ait moins d'attaches et de. Bon, il reste quand même la relation du travail, je veux dire. Mais bon, il est plus à même de pouvoir prendre plus de recul. Et puis ça s'apprend, hein, je veux dire, c'est tout.
Est-ce que vous, je m'adresse à Fred, à Marie-Agnès, après je te donne la parole, Florent. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec un expert qui est en cours d'expertise et qui venait vous voir concernant un patient, sans citer le nom du patient, qui était suivi dans un de vos CMP? Est-ce que c'est possible ça comme situation?
Non, l'expert travaille de son côté et ne va pas demander d'informations.
Il constitue pas un dossier en
venant voir. Il cherche pas à avoir d'influence, au contraire.
Au contraire, oui. Au contraire.
J'ai connu un patient qui avait été atteint d'un cancer, qu'on a réussi à soigner à temps. Ils l'ont laissé un peu mourir dans son lit et tout, sans qu'il s'occupe de lui et tout, il se plaignait. Et ben je crois que c'est une faute professionnelle très grave. Et l'hôpital, c'est comme ça. En fait.
Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est super intéressant, parce que moi, en tant que patient, j'ai vu aussi des trucs comme ça. Mais là, le problème, c'est que c'est hors sujet, mais c'était quand même super intéressant. Donc, on va essayer de recentrer, mais merci, Florent. Recentrer peut-être sur l'expertise. Nathalie, peut-être tu n'as pas encore pris la parole, tu veux pas partager un peu avec nous?
Selon toi, qu'est-ce qu'un expert et quel est son rôle?
En fait, qu'est-ce que tu en as compris par rapport à une interview qu'on a fait? Parce que nous, on s'est posé une question, on s'est quand même dit, c'est peut-être un peu compliqué l'interview qu'on a fait là. Peut-être même un peu chiant, non?
Non, c'est pas ça. Donc moi, ce que je retiens un petit peu de ça, et par rapport à ce que Marie-Agnès a dit aussi, pour moi, l'expertise psychiatrique, je pense, ne doit pas être bannie. Je pense qu'elle est très très importante, justement, pour faire la différence des personnes qui doivent être suivies par un traitement ou ne sont pas à donner un traitement et qui irait en prison. Mais je me dis aussi qu'en même temps que les prisons sont de plus en plus surpeuplées et que malheureusement dans la société qu'on vit, il y a de plus en plus de personnes justement qui sont très malades. Et que moi, je comme ça, quelque chose qui me vient à l'esprit, je sais que je rencontre des fois des gens dans la rue qui sont complètement perdus, qui n'ont pas de repères, qui sont malades, qui sont peut-être schizophrènes ou autres, hein, et qui sont pas soignés. Et mais ce qui me choque le plus, donc ces personnes-là n'ont pas cette chance-là. Et pour moi, un criminel restera un criminel, parce que quand il y a violence, si moi j'étais infirmière et que je devais faire la différence entre quelqu'un qui souffre de troubles schizo depuis un certain nombre d'années, qui se fait suivre par un traitement, par des hospitalisations, et que à cause de ça, un expert psychiatre va expertiser un malade qui vient de faire un viol. Moi, j'ai entendu le mot tout à l'heure que le viol était, enfin la personne était malade. On appelle ça la maladie du viol. Ben, je trouve ça complètement aberrant, parce que justement, pour moi, il y a une différence entre un violeur et une personne qui se fait soigner depuis un certain nombre d'années.
Si je peux me permettre, là, tu soulèves un débat de fond, vraiment. Hein, c'est est-ce que, enfin, l'identité du malade et quand il y a eu un crime, est-ce qu'on peut facilement donner l'identité de malade à quelqu'un qui en arrive à ce point-là? C'est une question de fond. Je pense qu'on va encore en parler, mais là, je me permets de lancer une pause musicale pour laisser nos auditeurs respirer, peut-être aller aux toilettes ou faire ce qu'ils veulent. Et là, on va s'écouter quelque chose. Alors, j'aimerais que vous soyez à l'écoute, parce que c'est du texte, en fait. Ouais, la musique, important. C'est pas le plus important, c'est le texte.
Donc, il faut encore un cerveau.
Ouais.
Disponible autant de
fois. Je crois que ça existe possible. Encore. Ouais. François, tu annonces le morceau?
Alors, je ne sais plus quel est le morceau.
La Parisienne libérée.
Ah oui, La Parisienne libérée, oui.
Toc, toc, voilà les médocs.
Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, existe. Et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale.
C'est déjà pas très rigolo d'être schizophrène ou parano. On se dit rarement depuis tout petit. Moi, quand je serai grand, je serai suivi. C'est déjà assez compliqué de trouver quelque part où loger sans qu'un agent persécuteur puisse se présenter à toute heure et vous dire: toc, 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 voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Parce qu'un évadé de l'HP s'est retrouvé médiatisé. Faudrait murer tous les patients sous peine de péril imminent. Les fauteurs de troubles publics iront en prison psychiatrique. Et si ça coûte cher au trésor, y a qu'à les enfermer dehors et leur dire: toc, 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 voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Un gestionnaire, quand ça vous trace, ça prend le soignant pour une menace. Tandis qu'il y a bien assez d'argent pour faire des chambres d'isolement. Un gestionnaire, quand ça bricole, ça vous fabrique des protocoles où le parano passe en audience grâce à de la visioconférence. Waouh! Toc, 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 voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Quand vient la nuit sécuritaire, on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont démérité. Résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus, l'insupportable ritournelle du fou dangereux criminel. Toc, 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 voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher.
Alors voilà, c'était La Parisienne libérée. Toc, 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 voici les médocs. Une réaction peut-être ?
Oui, est-ce que c'est une ancienne infirmière ou une ancienne patiente ?
Alors elle est sous pseudo, c'est La Parisienne libérée. J'ai pas d'infos, je suis désolé.
Elle est guérie.
Mais elle est au moins libérée psychiquement de sa maladie, là.
C'est très polémique.
Elle en parle volontiers.
C'est très polémique comme thème. Bruno, tu veux réagir ?
Oui. Sur La Parisienne libérée, moi qui suis abonné au journal Mediapart, elle intervient tous les jeudis par une vidéo sur un sujet d'actualité, quoi, sur Mediapart, tous les jeudis. Et deuxièmement, par rapport, je voudrais revenir sur la thèse, ce qu'elle a dit sur la maladie. Je crois qu'il y a deux sortes de maladies psychiques. C'est que, premièrement, je crois que, vraiment, la folie est en chacun de nous et c'est pour ça qu'on développe une maladie, dans notre vécu, dans notre destin. Mais aussi, une autre maladie qui semble qu'on nous impose par la connerie, qu'on refuse au début, mais qui est tellement forte et qui nous matraque dans la tête et à cause de ça, on peut aussi péter les plombs. Et ces deux sortes de maladies, dont l'origine, dans les effets, elles sont les mêmes, mais l'origine n'est pas la même. Voilà.
Moi, je pense que c'est bien chanté, bien écrit, parce que c'est sur la psychiatrie, mais c'est pas un bon flé, en fait. Hein, donc c'est ça pas mal. Hein.
Bah justement, moi je trouvais que c'était assez pamphlétaire et que les lapsus qu'il y a dans la chanson, le médecin préfet, le médecin juge préfet, l'hôpital prison, enfin la prison psychiatrique, et etc. C'était assez édifiant quoi.
Il faut pas oublier non plus la camisole chimique. Alors je me permets de reprendre la parole. Parce que là, on va passer aux extraits, donc de toujours ce qu'on a fait le 22 novembre à Valenciennes dans le cadre de la 9e soirée de l'espace éthique de la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Et donc là, on a reçu Franck Berton, qui est avocat au barreau de Lille et qui est connu un peu médiatiquement parce qu'il a défendu Florence Cassé et d'autres. Et donc là, on a pu l'interviewer sur plusieurs notions. Donc là, un petit extrait de 7 minutes 30 où on va parler de la divergence des expertises, la relation entre l'avocat et l'expert, l'examen de la personnalité. On va parler de ce que tu disais tout à l'heure, Malika, le fait divers, le tragique qu'il y a eu à Pau, et un peu de Nicolas Sarkozy aussi, parce que Nicolas, tu nous manques, reviens, mais on sent que tu as envie de revenir.
Bonsoir monsieur Berton, c'est
oui,
ça?
Oui, bonsoir.
Donc vous êtes avocat?
Oui, je suis avocat au barreau de Lille.
D'accord. Vous êtes ici sur une soirée qui a pour thème l'expertise psychiatrique et qui est autour de l'éthique.
Oui.
Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord pour nos auditeurs et ensuite nous expliquer un peu votre travail?
Ben, Franck Berton, je suis avocat au barreau de Lille depuis 1989 et je ne traite que d'affaires pénales. Voilà. Donc forcément, je suis dans le cadre de mon activité professionnelle en contact avec des experts psychiatres et psychologues, et plus particulièrement des psychiatres, puisqu'on les rencontre assez souvent devant la cour d'assises.
Je voulais savoir, en tant qu'avocat, est-ce qu'il y a souvent des litiges entre avocats et experts psychiatres? Enfin, vous avez dû en rencontrer beaucoup, hein.
Oui, il y a des litiges, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension en réalité, parce que le discours n'est pas toujours simple à percevoir et à décrypter. Et puis aussi parce qu'il y a des positions ou des conclusions qui sont parfois différentes, parce qu'on peut avoir une, deux ou trois expertises sur un accusé qui ne conclut pas la même chose. Donc forcément, les jurés sont parfois perdus, parce que les jurés ne savent pas à quel expert ils peuvent éventuellement faire confiance. Et souvent, on confond l'expertise psychiatrique avec une expertise de vérité. Alors que cette expertise n'est simplement qu'un élément du reflet de la personnalité ou de l'analyse de la personnalité de l'accusé. Donc parfois, oui, il y a en effet des divergences, et moi ça m'arrive assez souvent, entre les experts psychiatres et les avocats.
Mais en même temps, au niveau des divergences des expertises, est-ce que c'est pas plutôt sain d'avoir des divergences plutôt que d'avoir une vérité?
D'abord, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule vérité dans un dossier ou sur l'analyse d'une personnalité. Il peut y avoir plusieurs vérités. Ça dépend aussi de la période à laquelle l'accusé a été examiné. Soit c'est au début de la procédure, soit c'est deux ans ou trois ans après. Parce que vous savez qu'une procédure criminelle, c'est assez long. Et puis, ça dépend aussi de la méthode de l'expert. C'est-à-dire que la plupart des experts n'ont pas la même méthode. Même si il y a en réalité un canevas qui est assez simple, qui découle de la mission d'expertise qui est donnée par le magistrat, mais les magistrats peuvent parfois donner des missions assez différentes. Puis moi, j'ai eu des affaires et des dossiers dans lesquels on a vu, et j'en parlerai ce soir, les plus grands experts français se déchiraient sur les conclusions relatives à l'examen de la personnalité de l'auteur, de faits parfois très graves.
Moi, je voulais savoir, en tant qu'avocat, vous êtes amené à dessiner le profil d'un prévenu. Et comment faites-vous
Je vous rassure, parce que nous, avocats, on n'a pas la compétence du tout pour dessiner la personnalité
d'un individu. Non, mais je veux dire, vous avez un contact avec le prévenu.
Oui.
Et donc, vous allez ébaucher une défense. Et comment faites-vous pendant ce contact, pour avoir les grands traits, les grands traits de la personnalité, en quelque sorte, ou...
Les traits de la personnalité, c'est pas nous qui les déterminons. Hein. Vous savez que dans une procédure criminelle, il y a forcément un examen des faits et un examen de la personnalité qui est obligatoire. Dans l'examen de la personnalité, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, et il y a même un enquêteur de personnalité qui retrace la vie professionnelle, familiale de l'accusé. Donc à partir de ces éléments-là, on arrive à reconstituer sa vie. Et puis ça, c'est fait simplement à partir des précisions que lui peut apporter. Ça n'a rien à voir avec le système de défense. Le système de défense concerne les faits. Et la personnalité, simplement, peut expliquer parfois le passage à l'acte, mais pas toujours.
Bonjour.
Bonjour.
Vous parliez tout à l'heure de grandes affaires où les experts se déchirent.
Mmh.
Par exemple, dans l'affaire des infirmières de Pau en 2008, il y avait 9 experts qui étaient nommés pour expertiser la mentalité du prévenu qui était Romain Dupuis. Comment ça se passe lors d'expertises contradictoires? Est-ce que c'est une question de majorité d'experts qui détermine l'abolition, l'altération ou le...
Bah, pas forcément. Moi, j'ai un exemple dans l'assassinat du petit Valentin où je défends Stéphane Moitoiret qui a tué ce gamin. On a 9 expertises. Il y en a 6 qui concluent une abolition et 9 qui concluent, 2 qui concluent une altération et 1 qui conclut à rien. C'est-à-dire à une personnalité qui n'est atteinte d'aucun trouble psychique ayant altéré ou aboli son discernement. Donc à partir de là, c'est simplement l'impression que ces expertises peuvent produire sur les jurés. Et dans cette affaire, on n'a pas tenu compte des expertises psychiatriques et de la majorité justement des conclusions expertales, puisque vous savez que la justice l'a condamné, Moitoiret, et qu'il n'a pas été placé en hôpital psychiatrique conformément à ce que la défense demandait. Donc vous voyez, c'est pas une question de majorité, c'est parce que la justice parfois a beaucoup de mal à laisser échapper, parce que c'est un sentiment d'impunité pour elle, à laisser échapper quelqu'un qui ne serait pas condamné et serait placé en hôpital. Et donc on considère que l'hôpital est une fleur qui est faite à un accusé et qu'il n'a pas besoin forcément de soins et que ces soins, bah, finalement, il peut les recevoir en prison, alors qu'on sait très bien, et les professionnels savent que l'hôpital n'a rien à voir avec la prison et que parfois c'est la prison ne peut pas, surtout pas, soigner quelqu'un qui est atteint de tels troubles.
Donc, je me permets de vous prendre la parole parce que c'est une réaction par rapport à... Donc, c'est toujours sur la même affaire, l'affaire de Romain Dupuis.
Mmh.
Donc, à un moment dans le cours de ce jugement, le président de la République de l'époque était intervenu, avait fait une déclaration dans les médias en disant qu'il ne pouvait pas accepter le non-lieu psychiatrique parce que c'était inadmissible pour les familles des victimes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand un président de la République dit « moi je veux absolument que cette personne soit jugée responsable » Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là?
Non, mais que le président de la République outrepasse son pouvoir et donne un avis personnel sur la gestion d'une procédure judiciaire, vous savez, c'est de plus en plus fréquent. Bon, il n'y a plus d'étanchéité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Bon, ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'il y a eu un renforcement du droit des victimes depuis un certain nombre d'années, qu'on a même créé cette audience spéciale pour juger les fous, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et alors que la justice, selon moi, mais ça c'est une opinion personnelle, n'a pas à s'immiscer dans le traitement médical d'une personne qui a une déficience psychiatrique ou psychologique. Alors c'est pour rassurer les victimes et leur donner un sentiment que la justice est passée, avec un semblant de justice et un semblant d'audience. Parce que moi, j'ai assisté à une telle audience, c'est finalement une parodie de justice, où finalement la personne qui est accusée ne comprend rien à ce qui lui est reproché, quelle est la symbolique de cette audience. C'est simplement fait pour les victimes, parce qu'on a une victimisation de plus en plus accrue, avec des textes qui renforcent le droit des victimes, parfois au détriment du droit des patients ou du droit des accusés.
Oui, selon vous, l'introduction en 93 de cette notion d'altération, entre guillemets, du discernement ne va pas justement dans ce sens-là?
Bah, j'en sais rien. Moi, je maîtrise mal la différence entre les psychiatres, nous l'expliquerons, mais entre la démence et l'altération du discernement. Moi, j'ai tendance, à la place qu'est la mienne, de penser que je peux plus facilement expliquer à des jurés ce qu'est une altération du discernement qu'une démence. Parce qu'une démence, ça fait peur, vous voyez, alors qu'une altération du discernement, finalement, ce sont des termes assez communs, assez compréhensibles pour le jury populaire. Et on voit quand même que peut-être les psychiatres dans les expertises sont plus enclins à conclure à une altération, voire à une abolition du discernement, qu'à un état de démence. Alors, il y a une chose qui est réelle, c'est que l'altération du discernement, finalement, en pratique, ne change pas grand-chose à la peine qui est prononcée, alors qu'on sait que justement cette altération du discernement devrait entraîner une diminution de la peine prononcée par les juridictions populaires. En fait, c'est reste illusoire parce que l'altération, ça fait pas, c'est pas finalement tant que ça une circonstance atténuante. Vous voyez ?
D'accord.
des entonnoirs.
Donc voilà, donc c'était l'extrait Franck Berton, donc avocat célèbre du barreau de Lille, qui nous donnait son point de vue donc sur tout ce que j'ai dit avant l'intro. Donc si vous avez écouté, normalement vous avez capté ce dont on a parlé. Et donc là, du coup, maintenant, on va essayer d'en discuter tous ensemble. Alors je vais lancer le sujet. Donc à un moment, donc avec Franck Berton, on parle du fait que Nicolas Sarkozy soit intervenu en fait dans l'affaire en cours du fait divers Romain Dupuis à Pau. Et donc ça pose la question de... Le fait divers, donc c'est Romain Dupuis qui était schizophrène depuis quelques années, qui lors puisqu'il a été jugé irresponsable, donc abolition du discernement. Donc lors d'une bouffée délirante, est entré dans un hôpital et c'est tragique. Il a assassiné en fait deux infirmières sous l'emprise du délire. Il a été expertisé, il a été jugé inapte à passer devant la justice, donc il a été interné en UMD. Donc voilà. Et donc à un moment, Nicolas Sarkozy disait, en plus c'est en rapport avec la chanson, qu'on peut peut-être parler de Nicolas Sarkozy, ça peut-être nous motiver. Il disait que voilà, il comprenait pas qu'on puisse dire qu'il y a un non-lieu psychiatrique par rapport à la douleur des familles. Et donc c'est aussi un peu ce que tu disais, Nathalie, tu vois, tu parlais, c'est un peu de cette notion là aussi. Alors est-ce que ça vous motive cette question? Sinon n'hésitez pas, quoi.
Moi ça m'inspire le fait qu'il y ait maintenant une espèce de parodie de procès qui soit instaurée justement pour les victimes. Alors que où on juge les fous, alors que précédemment il n'y avait pas du tout de procès, quoi. Et il s'y retrouve des gens qui ont rien à y faire, et ouais. Tout ça pour justifier de la justice entre guillemets envers les familles.
Oui, donc du coup, peut-être pour préciser aux auditeurs, ce dont tu parles, c'est en réponse directe à ce fait divers. Donc Nicolas Sarkozy et Rachida Dati, dont on connaît toujours pas le père du bébé, mais donc Rachida Dati, elle avait fait une loi qui permettait en fait de confronter une fois les victimes les familles des victimes à la personne qui a fait l'acte qui passe au pénal. Et donc c'est une audience publique, hein. C'est bien ça dont tu parlais.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok. Là, je passe la parole à Roger Lucien.
Moi, je pense que le prédécesseur de François Hollande a eu tort d'intervenir dans ce fait divers, parce que je pense que dans une démocratie, la justice est indépendante. C'est pas au chef de l'exécutif d'intervenir dans les affaires judiciaires. Il y a un premier ministre, chef du gouvernement. Il a son mot à dire sur son ministre de la justice, sur son garde des Sceaux. Et le chef d'État est là pour contrôler en premier lieu l'exécutif.
Moi, je vais être très court pour parler de la justice. La justice ne doit être en aucun cas une vengeance de la société. Parce qu'on installe un climat de haine, et finalement, quand on est dans un climat de haine, le mec ne pourra pas se rééquilibrer pour être un élément, entre guillemets, sain dans la réinsertion. Voilà.
J'ai une question peut-être un peu provocatrice au niveau de Marie-Inès et Fred. Vous qui êtes soignants, en fait, est-ce que ça vous a pas modifié votre vision du soin quand on entend, donc ce fait divers, un patient qui égorge deux soignants? Est-ce que ça vous modifie pas votre façon de voir les malades?
Non, pas du tout. Je pense qu'en faisant ce métier, on sait très bien qu'on n'est pas à l'abri, nous les premiers d'ailleurs, puisqu'on est au front. Mais bon, voilà, on sait que ça fait partie des choses. Là, c'est tout à fait tragique, exceptionnel. Forcément, ça nous a touchés de plus près parce que c'est notre métier.
Alors, bien devant le micro.
Mais avec le recul nécessaire, quoi, justement. C'est là où je pense que si on n'a pas le recul à ce moment-là, on l'a jamais, quoi.
Parce que du coup, c'est vrai que nous, aux entonnoirs, on lutte pour... attends, Manika, je poserai ma question après. Vas-y, Manika, tu veux t'exprimer.
Moi, je voudrais vous poser une question. Oui. À l'infirmier. Ouais, bah,
Fred ou Marie-Agnès?
Ou Marie-Agnès. Est-ce que dans votre situation, vous êtes protégée?
Non.
Mais vous avez quand même des cours de self-défense?
Non.
Non?
Si on a éventuellement accès à des formations.
Mais on peut toujours se protéger soi-même. Puis moi, je commence à être vieille, donc je suis de l'expérience qui arrive. Il y a des choses qu'on fait en début parce que on manque d'expérience et on manque de recul. Il m'est arrivé des coups fendards. Maintenant, quand j'en parle, je me dis, mais qu'est-ce que je pouvais être con à ce moment-là? J'aurais pu l'éviter. Hein, mais voilà. Donc, avec le vécu, oui, effectivement, Je pense qu'on se fait une super protection. Après, si on veut prendre des cours de self-défense, bon, bah, moi c'était
ouais,
avant.
Ou de lancer de.
Et, mais bon, on apprend, mais bon, je c'est pas primordial.
De lancer de seringue.
Je pensais que t'en avais pris, parce que la dernière fois que j'ai voulu te faire un bisou, tu m'as quand même vite immobilisé. Hein.
Oui, ben voilà. Mais ça, c'est pas par rapport à la psy.
Ouais, mais vous, Agnès, vous faites un peu le gendarme.
Le non, quoi ah que non, tu puisses en penser, tout. Malika, non. Oh, quel blanc.
Ouais, il y a un blanc,
c'est
là.
C'est pas grave, il y aura un montage. Mais j'ai pas compris, en fait, qu'est-ce que t'as dit, Malika? J'ai pas compris le...
Vous fait...
Le
Est-ce qu'elle fait gendarme, un peu le gendarme? D'accord. Non, elle doit recadrer, elle doit, comment, modérer.
Non, je suis plus maman à la rigueur.
Est-ce que c'est un métier?
Je propose de demander ça à Florent. Est-ce que tu trouves que Marie-Agnès fait le gendarme, Florent?
J'ai dégusté au début, maintenant... je te remercie de m'avoir remis dans le droit, sur le droit chemin, quelque part, parce que si t'étais pas là, bah, je serais quand même tout fou, tout bordélique, ouais, bordélique et bordéleux. Deux à la fois, quoi. Capharnaüm compris. Donc, voilà. Merci, hein.
Alors moi, je voudrais juste Rosier Lucien qui demandait la parole depuis un certain temps.
Moi, je voudrais savoir s'il y a des priorités de soins. Ça veut dire... je sais qu'on fait beaucoup pour des maladies telles que le VIH, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens meurent. Mais je voudrais savoir si on ne peut pas faire plus pour la maladie mentale et le handicap psychique, parce que ça peut créer, ça peut déchirer même des familles. Hein, donc,
je propose peut-être une réponse des soignants.
Voilà.
Bah, nous-mêmes, on dit toujours que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la santé. Hein. Je veux dire, en général, les mouvements, les recherches et tout ça, ça part souvent de la base. Bon, je dis pas que les psychiatres font rien, hein, attendons-nous. Mais il y a beaucoup de choses qui partent de la base. Et c'est vrai que, moi, je sais pas, quand je travaille, mon premier souci quand j'apporte un soin, c'est le bien-être du patient. Après, je m'adapte.
Nathalie, ben.
Oui, donc je voudrais répondre à Marie-Agnès. Tu viens de dire que tu t'adaptes. Mais si, par exemple, sur une journée, tu avais un violeur à consulter et que dans la même journée, tu avais peut-être une personne, une dame qui s'est fait battre par son mari, qui est suivie, est-ce que ta réaction serait exactement la même devant le violeur et devant la dame qui vient d'être battue par son mari?
Alors, j'ai déjà eu ce cas de figure, et j'avoue que j'aime autant que ça ne se suive pas l'un derrière l'autre, parce que bon, il faut un temps pour s'adapter.
C'est là qu'intervient le recul nécessaire dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà, je m'adapte. Si, je crois que c'est le maître mot de notre boulot, hein, l'adaptation qu'on a, la faculté d'adaptation qu'on a à chaque personne. Oui, parce que chaque personne est un individu entier.
Mais ça n'empêche pas que quelque part, tu puisses flipper quand même, quelque part.
J'ai pas à juger.
T'as pas à juger, d'accord, ok.
Alors, j'aimerais bien intervenir par rapport à la situation que proposait Nathalie à Marie-Agnès, en disant, voilà, recevoir une première fois un violeur et dans la foulée un autre patient qui consulte et qui, là, s'est fait battre ou s'est fait violer. Voilà, comment faire? Alors, dans l'absolu, on est tenu à une certaine neutralité bienveillante. Alors, c'est un concept vague, mais que l'expérience nous permet d'appréhender. Et le jour où on n'est pas en situation mentale, voilà, justement, pour gérer une situation, par exemple, on va dire le deuxième entretien, on doit passer à un collègue en expliquant la situation et en expliquant à la personne, que ce sera une autre personne qui va la recevoir.
D'accord.
Voilà, ce qui conclut ce débat. Jingle pour la suite.
La pensée de la semaine. Chut, chez les entonnoirs. Avec Nathalie.
Voilà, alors Nathalie va nous présenter la pensée de la semaine, comme son jingle l'a indiqué. Et cette semaine, c'est sur
la tolérance, donc
un peu dans le thème
qui a à voir avec le thème de l'éthique. Oui,
oui, tout à fait. Donc je vais vous lire un petit texte philosophique là-dessus, et puis ensuite je vous poserai peut-être des questions, ou vous me direz ce que vous en pensez. Adapte-toi aux autres. Nous ne nous ressemblons pas. Chacun de nous est unique. Fais les efforts nécessaires pour chercher à comprendre ceux qui ne sont pas toi, ceux qui résonnent différemment de toi, ceux qui sont à milieu de tes réactions. Écoute, ouvre ton cœur, féconde la tolérance au profit de la différence pour plus de compréhension. Et je rajouterai personnellement, la tolérance n'est pas le tout d'accepter, mais de mieux comprendre les autres. Alors, une question, Johan.
J'ai l'impression que ton thème, ton texte, c'est un pamphlet pour lutter contre l'effet de mode et la victimisation des fashions, tout ça, tu vois. Mm-hmm. Ça me fait penser à ça, hein. C'est peut-être vague et c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Et moi, c'est ce que ça m'évoque avec mon petit cerveau de malade schizophrène.
En fait, la tolérance, c'est... En fait, on pourrait dire que c'est une petite acceptation, parce que tolérer quelque chose, c'est pas forcément l'accepter, mais c'est quelque part quand même une compréhension.
Mais c'est parce qu'à un moment, tu dis on est tous différents.
Oui, on est tous différents, on a le droit de penser différemment, tous.
Moi, j'ai l'impression.
Et on peut pas être d'accord avec tout. Ça serait trop beau. Mais
j'ai l'impression quand on veut être, et après je passe la parole, je suis promis, quand on veut être différent des gens, on se met en marge. Parce que les gens ont un instinct, ils veulent vivre avec des gens qui leur ressemblent.
Ouais,
si moi je suis pas tout à fait d'accord en fait. L'humanité vient de la diversité et la diversité c'est important. La tolérance pour moi c'est accepter cette diversité, mais plus que comment dire, plus que la tolérer dans le sens toléré du terme, plus avec plus d'empathie. Avec plus de
réserve, tu veux dire?
Avec moins de réserve.
Oui.
En prenant davantage l'autre comme comme son frère, comme son.
Oui, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, on peut pas tout accepter. On peut tolérer, mais pas tout accepter.
Oui.
Voilà.
Ah oui, mais la tolérance dans le sens tolérance, le grand mot tolérance, c'est plus que l'acceptation. C'est la volonté d'aller vers l'autre.
Oui. Bruno.
Rappel historique, je crois que le pays qui a le premier mis en œuvre une certaine tolérance sur le plan éthique et plan politique, ça a été les Pays-Bas. Je crois, pour me rappeler. Et deuxièmement, le danger, l'écueil vers lequel nous conduit la tolérance, c'est malheureusement à dire, c'est faut faire attention au laxisme. Voilà, j'ai peur de ça. Voilà.
Pour moi, la tolérance, c'est accepter la différence. Et bon, c'est un débat philosophique et en fait, ça reviendrait à dire que mon moi égale l'autre. Moi égale l'autre. Voilà.
Gilbert, une réaction? Il s'enfonce dans son fauteuil, on dirait qu'il n'a pas envie de répondre. Tu veux réagir? Profites-en. Non, pas de réaction.
Qu'est-ce que tu penses de la tolérance, Gilbert?
Non, moi je répondrai à une autre question tout à l'heure.
D'accord.
C'était parce que je trouve que Sarkozy, il y avait rien à s'occuper de cette histoire, parce qu'il n'y a qu'à s'occuper d'abord des intérêts des Français, mais pas de la justice, parce que à ce moment-là, on n'est plus en démocratie. Si, il s'occupe de la justice, lui, à ce moment-là, si d'un qui vole, c'est à lui, il ne doit pas s'occuper de la... lui est là pour la politique, il n'est pas là pour s'occuper de la justice.
Il a manqué de tolérance. Ouais.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Roger Lucien.
Moi, je tiens à faire, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, le distinguo entre le mot tolérance et le mot acceptation. Tolérance, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'il est différent du mot accepter, pour moi. Et pour moi, il y a une forme d'hypocrisie quelque part lorsqu'on dit, par exemple, qu'en France, on est dans un pays des droits de l'homme et que... quelque part, on fait des contrôles aux faciès, on pratique des contrôles aux faciès, et bon, pour certains citoyens le tolèrent, trouvent cela normal, alors qu'on est soi-disant dans le pays des droits de l'homme, donc y aurait-il des sous-hommes, et des hommes qui seraient des hommes avec un grand H, et d'autres qui le seraient avec un petit H? Moi, je ne le pense pas.
Moi, je pense que quand je pense qu'il y a des sous-hommes, on est dans des valeurs qui sont pas universelles. Et quand on pense que tous les hommes avec un grand H sont égaux, on est dans des valeurs universelles. Et pour moi, la tolérance, c'est égal au rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, c'est la frustration. Et il faut faire attention parce que nous, les malades, on peut facilement être intolérants à la frustration.
Bah, c'est sur ces mots qu'on va passer à la suite. Et la suite, c'est la fin de l'émission.
Donc, voilà,
on vous dit à la semaine prochaine.
Donc, restez...
Restez à l'écoute des entonnoirs et soyez prêts pour la deuxième partie de cette émission exceptionnelle sur l'éthique.
Et on espère que vous n'avez pas trop souffert, votre cerveau a pas trop chauffé, sinon vous pouvez vous rapprocher des CMP de votre quartier. Et surtout, préparez-vous bien, j'espère que vous en avez profité pour acheter des bouteilles d'eau et des vivres parce qu'on approche du 21. Enfin, j'espère, si jamais on n'est pas dans le thème, ben voilà.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des entonnoirs, parce que j'ai un puits fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça, des entonnoirs.